J'étais tenté de lire tout un chapitre, acte 27 par exemple, où Paul embarque pour Rome afin d'illustrer mon sujet. 15 minutes de lecture, ça vous paraît pas un peu long? Alors rassurez-vous. Je me suis dit, chacun peut le lire chez soi, tranquillement, posément, avec le Seigneur qui va nous parler à l'oreille, nous montrer des choses. Alors, j'ai trouvé un texte beaucoup plus court, vous allez voir. J'ai trouvé dans Juges 5, verset 6, Juges 5, verset 6, « Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveau Dieu, alors la guerre était aux portes, etc. etc. » Déborah, une femme qui a été juge en Israël. Ça, il faut le souligner quand même. Vous voyez que les femmes n'ont pas mis en arrière. Elles ont un rôle décisif, important. Quand le Seigneur demande à une femme de se lever pour le servir, eh bien, c'est le Seigneur qui agit devant sa servante. Vous savez, sans la protection, sans la présence de Dieu, le peuple avait perdu les repères et le bon chemin. Les routes étaient abandonnées, c'est-à-dire elles manquaient, on ne sait même plus où elles étaient. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Chacun y allait un petit peu comme il pouvait. Alors les voyageurs d'aujourd'hui, ils sont en majorité appelés touristes. Mais dans la Bible, si on regarde, et vous le savez, tout voyageur marche, il marche pour se rendre quelque part, avec une motivation, il a un but. C'est nécessaire pour lui de voyager pour se rendre à un point bien précis. Et les disciples, ils marchaient. Au mieux, ils prenaient un bateau comme Paul. Si vous lisez acte 27, vous allez voir. Ils marchaient sous le soleil brûlant, à travers les collines, les vallées, traversaient les rivières, les déserts. Ils parcouraient de très longs trajets et c'était plein d'embûches. Voilà, ça c'était un peu mon préambule. Et c'est vrai qu'on peut comparer souvent la vie, notre vie, à un grand voyage pour lequel nous sommes tous comme dans un train. Alors, des fois, c'est un train-train de la vie, je dirais, mais il roule. Ce train de la vie, il roule sur les rails du temps. Et puis, on voit défiler toutes sortes de paysages variés, montagneux, escarpés, vallonnés, des plaines à perte de vue, des cultures, des déserts, des lacs calmes, des torrents furieux, etc. On a tous en tête tout ça, on a tous voyagé. On voit tout ce qu'on peut découvrir, mais on est quand même dans un train, donc ça, on ne se fatigue pas trop. Et le train, il roule vers une destination connue, en principe. J'espère que vous avez quand même choisi. Quand vous êtes dans un train, vous savez où vous allez. À moins que vous n'aimiez pas les surprises. Vous savez, il y a des adeptes de l'aventure. Et dans ce cas, si on est un adepte de l'aventure, on prend le premier train qui s'arrête, monte dedans, on part à l'aveugle, quoi. Et si c'est le cas, en prenant l'exemple du départ en vacances, on doit prévoir quand même quelques bagages. Si on part à l'aventure, on doit prévoir la chaleur et le froid. On va peut-être rencontrer des déserts ou la mer. Alors, il faut une toile de tente et puis quelque part un chéquier bien garni parce qu'on peut tomber sur des étoiles, des hôtels 5 étoiles. Et là, bon, c'est une surprise difficile à vivre des fois. Alors, vous savez que si Saint-Tropez ou Saint-Maurice, Bordeaux ou Tourcoing, c'est pas pareil. Nice, Genève ou la baie de Somme, c'est différent quand même. Entre la mer et la montagne, le soleil cuisant au ras de l'eau, vous savez, sous les tropiques, et puis la douce brune quotidienne made in Scotland, c'est pas pareil. Il y a une différence très notable. Alors ça peut expliquer certains bagages encombrants pour faire face à toutes nos situations. On se charge de beaucoup de bagages. D'ailleurs, je vous vois bien avec des moufles, moi, au bord de la mer. Ou faire des châteaux de sable en maillot de bain, mais alors dans la neige. Bon, c'est idiot, hein. C'est un truc bizarre, ça, non ? Alors, comme je vous connais quand même un peu, j'ose penser que vous savez bien vers quelle destination vous allez. Là, je pense que vous allez me rassurer, vous savez où vous allez. Vous découvrirez peut-être des choses que vous ne soupçonnez pas. Mais vous savez où c'est. Vous savez où c'est. Vous savez dans quel environnement vous allez atterrir, avec l'espérance de découvrir mieux, plus beau, ou plus surprenant aussi, hein, que ce qu'on vous imaginiez. Et tous les chrétiens savent où ils vont. Tous les chrétiens savent où ils vont. Hein, vous êtes d'accord ? Maintenant, ils ne savent pas toujours comment y aller. Alors, tout ça pour vous dire que moi, j'ai pensé à un autre moyen de transport. Alors, on peut être en tongs et ou en short. Avoir un manteau de fourrure, bon, synthétique, hein, rassurez-vous, les écolos. Ou un survêtement, ou un costume, ou encore une chemise à carreaux à fleurs, ou une robe, ou des talons hauts, des baskets. Comme vous voulez, n'importe quoi, dès l'instant que vous êtes bien dans votre... J'allais dire dans votre, bon, dans votre habit. J'allais dire fringue, mais ça ne se dit pas trop. Hein. Et ça, ça simplifie beaucoup les préparatifs de madame pour les valises, n'est-ce pas ? D'ailleurs, si vous partez prochainement, vous allez prendre des notes, j'en doute pas. Hein, avec près tous ces bons conseils. Alors, je dois aussi vous avouer avoir subi, pendant un certain temps assez long, j'ai subi un traumatisme professionnel, c'est-à-dire, ça me court toujours derrière, quoi. Parce que vous n'allez pas être surpris de m'entendre parler d'un moyen de transport que tout le monde connaît, utilise, ou a utilisé, ou va utiliser, occasionnellement, quotidiennement, ou peut-être pour quelques-uns, jamais, jamais, et ils l'évitent. Ça, ils n'aiment pas du tout ce genre. Alors, je ne sais pas piloter un avion, ni diriger un bateau. Hein. Alors, je parle de quoi ? Eh bien, comparer le cheminement de la vie à quoi ? J'imaginerais que la vie nous a fait prendre, alors vous allez comprendre, un ascenseur. Wow. Oui, vous savez, cette boîte qui monte et qui descend, là. Hein ? C'est pour ça que je parle de déformation professionnelle. Il y a des fois... Elle descend avant de monter, mais bon, ça, c'est pour venir nous chercher tout en bas. Et c'est vrai que notre vie doit connaître une autre dimension que l'horizontale, les relations entre nous. Il doit y avoir une autre dimension, une dimension qui nous élève. Hein. Celle qui permet de relier le bas et le haut. Et même au Moyen-Âge, c'était possible. Ça, c'est incroyable, ça. Hein. Alors, pas socialement, bien sûr, mais spirituellement. Car les premiers chrétiens, par exemple, n'ont pas attendu l'invention de la cage motorisée, heureusement pour eux, hein, c'est sûr. Alors, cette envie de s'élever, que j'avoue et que je pose devant vous, il nous faut partir d'où on est, du rez-de-chaussée. Du rez-de-chaussée, souvent, c'est forcément parce qu'on va aller plus haut. On ne veut plus cette situation-là. On a entendu quelques... fraction du témoignage de notre frère tout à l'heure. Il ne pouvait pas se contenter de ça, ce n'était pas possible. Il était pire qu'au rez-de-chaussée, il était au troisième sous-sol. Et des fois, il y en a 10 des sous-sols. Hein. Vous vous rendez compte ? Ce n'était pas possible. Donc, il a voulu s'élever, le Seigneur est venu le chercher, lui envoyer un ascenseur, je dirais. Hein. Tous les édifices sont composés d'étages qui sont les uns sur les autres, c'est un empilement, tac, 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 tac. Et ça forme en totalité un édifice pour aller jusqu'en haut, jusqu'au sommet, où là, tout est changé, tout est transformé. Alors, quand on est dans cette belle petite cage de la vie, hein, pour reprendre un peu mon truc, mon image, il y a des étages, on peut s'y arrêter ou pas, on peut y descendre ou pas. Et s'y arrêter, c'est pas forcément y descendre. On peut s'y attarder ou pas. On peut les visiter, ou pas, et même s'y installer. Mais alors, on n'en part plus. Hein. Là, on reste à l'étage où on est sorti. Dans ce cas, on comprend que l'arrivée au sommet soit retardée, même impossible. Si on est arrêté au deuxième étage, on n'arrivera jamais tout en haut. On est bloqué. On a choisi d'être bloqué. On s'est malheureusement laissé bloquer. Alors, étant tous différents, parce qu'on est tous uniques, suivant la volonté de Dieu, on ne voyage pas non plus à la même vitesse. Alors, les pressés ou les bouillants, ils prennent l'ascenseur rapide. Vous savez combien que ça peut aller, un ascenseur rapide, pour moi ? 5 mètres à la seconde. Pas mal. 18 km/h. Bon, paraît pas, mais 5 mètres à la seconde, c'est pas mal. D'autres, plus classiquement, je dirais, c'est la moyenne des gens, ils prennent l'ascenseur courant. Alors, lui, il va à 1,50 m par seconde. Ça fait 5 km/h. Il marche. Bon. C'est celui qui est le plus accessible aussi. Hein. Et puis, il y a les prudents, ou les sceptiques, ou ce que vous voulez. Alors, eux, on va y aller doucement. Hein. Ils prennent le monte-charge, 0,40 m à la seconde. Si vous allez au 25e, c'est long. Hein. Ça fait 1 km/h. Pas terrible. Hein. C'est l'ascenseur de service. Mais bon, il faut dire qu'ils sont sensibles ou ils sont peut-être sujets au mal des voyages, mal du voyageur. Ou alors ils n'aiment pas les risques. Hein. Ils ne veulent pas être trop bousculés. Alors ils prennent leur temps. Mollo, mollo. Il y a un truc en latin, mais je ne me rappelle plus comment on dit. Et là, attention. Attention, parce que quand on ne va pas vite, on est des fois plus secoué à faible vitesse. Parce que, bon, alors c'est un peu technique. Ben, j'aime bien un petit peu parler de ce que je connais. Quand vous êtes dans un ascenseur qui ne va pas lentement, le glissement n'est pas terrible. Ça se coule, bam, bam. Les alignements de guide ne sont pas très bons. Les coulisseaux sont rigides. Ça fait du bruit, ça grince. Bon, bref. Alors, je dirais les guides de la vie, ils ne sont pas bien alignés, ni mis bout à bout. Alors, il y a des petits chocs, des petits bruits, des secousses. Ce n'est pas trop confortable, forcément. On monte à son petit rythme. Tandis que ceux à grande vitesse, eh ben, je vais vous faire une révélation, ils sont beaucoup plus doux, beaucoup plus silencieux. Ils vont très vite, mais ils sont montés sur des ressorts avec des roulettes comme ça. Hein. Incroyable. Alors, aucune appréhension ne fait chanceler la détermination de celui qui veut, prend cet ascenseur rapide. Il veut arriver au but. Tiens, ça me fait penser à Eric. Il est un peu comme ça, lui. Prend le... Hein, il y va vite. Hein. Enfin, bref. Alors, évidemment, celui qui a construit, le constructeur de ses moyens de locomotion, il a pris soin de tous les détails suivant leur utilisation. Hein, ça, c'est sûr. Alors, évidemment, vous me direz qu'une voiture de course F1, ce n'est pas une Clio. Bah, tout le monde le sait, c'est évident. Mais là, ça arrête la comparaison. Alors, Dieu ne fait-il pas ça, lui aussi ? Chaque détail de notre vie, de notre déplacement vers lui, est connu. Et s'il nivelle le tracé d'un bolide, c'est pour qu'il reste un bolide. C'est pas pour qu'il dise « je suis bien », non, c'est pour qu'il continue sa course à pleine vitesse avec le Seigneur. Sinon, là, ça ne marchera moins bien. Alors, une note pour les non-rassurés, parce que là, je parle de vitesse, qu'on roule à 5 mètres secondes ou à 0,40 m par seconde, quand l'ascenseur tombe, c'est dans l'autre sens. Waouh. Ah. Mais il tombe toujours, à un moment donné, à la même vitesse. C'est bizarre, hein ? C'est-à-dire très vite, beaucoup trop vite. Ça peut faire mal. Mais alors, je vous rassure, rassurez-vous, vous pouvez prendre l'ascenseur comme vous voulez. Il y a un parachute, c'est obligatoire. Sinon, on n'a pas le droit de fonctionner. Alors, ce n'est pas une toile, hein, bon, comme j'ai déjà entendu, mais bon. C'est un blocage mécanique. Transposer l'image au spirituel, dans ce qui nous concerne. Nous, on grimpe, hein. On ne veut pas tomber, on grimpe. Mais on est rassuré parce que... Vous savez, j'imagine que le Seigneur, il ne veut pas qu'on chute. Si on est dans son ascenseur spirituel, qu'on va à sa rencontre, il ne veut pas qu'on chute, il ne veut pas qu'on retombe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il s'inquiète pour nous et son secours est efficace. Et si on a le réflexe de déclencher son secours, de rester lié à son contact, je pense à cette commande du parachute, hein, qui est fixement amarrée à la cabine. On la tient, cette garantie de non-chute, n'est-ce pas? Alors oui, pour parer à la chute, même si c'est exceptionnel, il faut s'en garantir quand même. Garder la main vraiment sur ce que le Seigneur nous a mis à cœur, et on le serre, on le serre, on le tient, on ne le lâche plus. On tient le pan de son manteau, et Seigneur, je veux te suivre, je te tiens, et je marche avec toi. Alors oui, pour parer à la chute, ben, je l'ai déjà dit. Vous savez, on a reçu des amis, là, et puis il a fait l'escalade du Mont Blanc. Alors, c'est pareil, c'est très bien organisé, il y a tellement de monde, alors on s'encorde, etc. Et il me disait, il m'a surpris, il m'a dit, il y a souvent des morts, il y a au moins un mort par an, parce que les gens ne respectent pas les consignes de sécurité, ils ne sont pas encordés, ils ne tiennent pas, à dans une image spirituelle, ils ne tiennent pas vraiment le pan de Jésus, ils ne se saisissent pas l'aide que Jésus leur apporte. Ils sont un petit peu trop indépendants, tout va bien, j'y vais, je grimpe, et bien oui, il y a un mort par an minimum, hein. C'est grave. Alors revenons à notre ascension qui voudrait régulière ou constante, sûre et en sécurité. Alors, on est dans l'ascenseur, on va examiner un petit peu ce qui se passe. Alors, certains passagers s'attardent à tous les niveaux qui se présentent, ils ne sont pas pressés, ils sont peut-être curieux ou curieuses. Ils veulent goûter à tout, visiter tous les décors du lieu et en profiter, quoi. Il y a tellement de choses à découvrir. Il ou elle, ben, ils musardent. Ils veulent, un petit peu comme dans les grands magasins, « Ah, c'est bien, oh, c'est bon, on fait tous les rayons, et puis on en met un peu dans nos poches, on veut augmenter notre connaissance, on veut s'enrichir de tout cela. » Et puis ils prennent un sac, et puis ils prennent un caddie, hein, on connaît tous l'image de ce caddie. Alors si ça leur est utile, moi je veux bien, mais est-ce nécessaire? C'est quand même mieux quand c'est nécessaire, hein. Ben, je pense à ma cave, si vous voyez ma cave, vous comprenez pourquoi je dis ça. Alors, à ces étages aussi, on peut se perdre. On y laisse du temps. Et c'est du temps qui nous est compté. Racheter le temps. Vous vous souvenez de ce passage? Alors, je voudrais un exemple, qui est un petit exemple, mais ça s'adresse un peu à moi, parce que je n'ai pas l'expérience de langue étrangère, et puis je ne suis pas très bon, bref, branché là-dessus. Alors, je ne m'essaye pas au grec avant de lire la Bible. Il y en a qui l'ont fait pour moi. Eh bien, je prends tout ce qu'ils ont fait pour moi, je m'en régale, et puis, eh bien, il vaut mieux que j'apprenne mes versets qui vont me faire du bien, qui vont me parler, qui vont m'encourager, hein, avant d'apprendre le grec. Alors, peut-être que si je pouvais, bon, mais ce n'est pas dans mes capacités, je ne le fais pas. Je ne me remplis pas mon savoir, mes poches, etc. Je ne perds pas mon temps à ce qui n'est pas essentiel pour grimper, m'élever dans cet ascenseur. Alors d'autres, alors eux, ils enregistrent tous les étals. Ta, 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 ta. C'est beau, hein, tous ces petits boutons qui s'illuminent, on dirait le sapin de Noël. L'omnibus de leur enfance, ça doit leur manquer. Alors tout les intéresse, mais vous savez, si on est trop curieux, ça empêchera de maîtriser la totalité de ce qu'ils verront. Hein. On peut, hop, 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 rien, on retient rien, on voit trop de choses. Je dirais même qu'en avoir plein la vue, ça ne remplit pas l'estomac. Alors, c'est un grand sage qui a dit ça. Je ne sais pas lequel. Mais... ça fait penser au papillon aussi. Vous savez, il butine, il va de travers. Je regarde dans notre jardin, et bien, le papillon, la fleur est là, il fait ça. Tu dis, il va y arriver ou pas? Alors, il en prend une autre, etc. Il n'a pas le but final, sinon le plaisir de collecter ce qu'il aime, hein. Alors, ce sont des visites systématiques, sans discernement, qui l'attardent. Les balades. Et puis, il perd le nord, quoi, il ne sait plus où il va. Hein. Alors, d'autres, ils sélectionnent leur arrêt. Ils savent exactement, par passion. Alors, ils se rendent directement aux étages choisis. Tac, eux, ils ne butinent pas. Hein. Ils savent, moi, je veux ça. Impeccable. Un peu comme dans les grands magasins. Vous savez, bon, préparez-vous à rigoler. Les rayons lingerie fine sont toujours remplis. Au même titre que ceux des geeks, on ne dit pas geek, il paraît qu'on dit geek, j'ai appris ça, ou des accros de mécanique, ou beaucoup plus gravement, de méthamphétamine, des drogués. Ils se nourrissent, entre guillemets, de leur passion. Et il n'y a pas de limite de sujet, sachant que leur passion, c'est pas un hobby, c'est une passion qui la prend totalement. Elle engage tout l'être, la passion, essentiellement et prioritairement son sujet. Les pensées entraînent le corps et l'âme, et l'esprit devient prisonnier. Corps, âme, esprit. Si il y en a un, l'esprit est prisonnier du corps et de l'âme. On ne peut pas séparer. Hein, c'est à l'image de la Trinité de Dieu. Alors, c'est quand même grave parce que ceux-là peuvent se priver de manger, de dormir, se coupent de leurs proches, sans s'en rendre compte. C'est terriblement possessif. Hein. Vous ne vous appartenez plus. Et vous appartenez à qui ? À quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre qui veut vous détruire. Vous savez, le fameux « c'est plus fort que moi », vous savez ce que ça cache, hein, cette perte de contrôle de soi. Toujours se demander à qui ça profite. C'est une bonne question à se poser. À qui ça profite ? Alors, ils s'éternisent à leur étage. Ils pensent se trouver sûrement du temps, plus tard, pour reprendre la montée, quand ils auront envie. Mais vers un rayon qui n'existera plus, parce qu'il y aura eu l'heure de fermeture. Terminé, ils sont bloqués. Vous savez, je pensais au Proverbe 26, verset 11, « Le chien est retourné à son vomi ». Vous connaissez bien cette expression. C'est la chute, c'est le retour à zéro, et des fois même encore plus bas. Alors plusieurs, arrivés à mi-course, ils sont déjà pas mal à mi-course, hein, ils jettent un œil, « Waouh, la vue est magnifique !» Un balcon, c'est extraordinaire ce qu'on voit. Ils entendent encore les bruits d'en bas, mais ils profitent de l'air. Ah, c'est beaucoup moins pollué quand même. Ils conservent les liens du monde et profitent du calme et du repos. Ah, c'est réconfortant ce calme. C'est le calme dont ils aspirent, dont ils ont besoin. Alors, ils restent connectés aux deux extrêmes, aux deux mondes, puis ils entretiennent un peu cette ambivalence. Ils élisent sur ce balcon, à la vue si agréable, domicile. Ils s'y installent. Alors, ils pensent être extirpés des inconvénients. Et ça leur suffit. Bon. Mais, vous avez peut-être déjà vu toutes ces images. C'est comme le guillemot. Vous savez, ça, c'est un oiseau. Englué dans le pétrole. Alors, il s'est sorti de l'eau. Il a trouvé un rocher sec. Il se hisse dessus. Il ressent le bienfait des rayons du soleil. Mais il n'a pas encore retrouvé le ciel d'azur. Hein ? Il n'est pas sorti de ses difficultés. Ou alors la marche du canard ou l'enfant, vous savez, qui joue là, à cloche-pied. C'est ni élégant ni efficace pour marcher, peut-être pour s'amuser, je ne sais pas, mais pas pour arriver au but et à destination le plus rapidement possible, dans la meilleure possibilité, meilleure capacité. Alors, dans tous les cas, si vous sortez de la cabine d'ascenseur à un niveau, en principe, c'est volontairement. C'est volontairement que vous en sortez. Parce que si ce n'est pas prévu, des fois, on est obligé de sortir, c'est comme dans le métro, on est obligé de sortir pour laisser sortir les autres derrière. Mais on fait demi-tour, on fait un pas en arrière, on remonte dans l'ascenseur parce que notre but, il n'est pas atteint. Dans les cas involontaires, on constate, ah, ce n'est pas le top niveau, ce n'est pas le top level. Je parle bien, hein. L'arrivée finale, on remonte dans notre ascenseur. On veut aller tout en haut. À chaque sortie de cette cabine, on retarde l'accès au toit de notre foi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, il ne s'agit pas de choisir un mode de transport qui satisfasse notre ego pour accéder au plus vite à l'objectif, parce qu'il faut être préparé. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est différent. Ou de retarder l'arrivée au sommet parce que... Alors là, combien d'excuses on peut présenter ? Combien d'excuses ? Et il y a des retards voulus ou non, des arrêts répétitifs, des pertes de temps à ne pas prolonger inutilement. Les seuls retards intéressants, ou plutôt, je dirais plutôt que ce sont des pauses, des moments qui permettent la consolidation, la compréhension, la digestion, avec la mise en pratique, comme nous le rappelait Moumar l'autre fois. Donc, ça doit incrémenter notre vie spirituelle, d'où les différentes vitesses d'ascension dont je parlais. Nul n'est apte à connaître systématiquement tous les étages. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Ouf. Il faut qu'il existe des services. Oui, il faut le savoir, c'est vrai. Il existe des services pairs ou impairs, des accès réservés, privatifs, etc. Ce n'est pas aussi simple qu'on ne pense. Donc, avec la vitesse d'ascension non adaptée, on n'est pas à l'aise. On n'est peut-être pas dépassé, mais on n'est pas serein. On a l'opposé, c'est-à-dire si on va trop vite ou pas assez vite, si on va pas assez vite, à ce moment-là, on peut s'ennuyer, on bâille, on s'endort. Bon. Alors si je dors dans le train pendant le voyage, on arrive plus vite. Mais si je dors spirituellement, le voyage s'arrête. J'ai pensé à ça, je dis c'est bizarre quand même. On ne peut pas s'endormir, se laisser aller, couler quand on monte vers le Seigneur. Parce qu'il y a des étapes à franchir, il faut être éveillé, il faut être actif de cette ascension. Savoir ce qu'on fait, où on va, où on descend, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Hein ? C'est pas un transport en train. C'est pas un transport en train. Voulons-nous nous désaltérer ou nous gargariser, nous abreuver ou nous empiffrer ? C'est une réflexion qu'on peut avoir. Et puis tiens, je vais parler un peu du zélé curieux. Lui, il ne voudra qu'aller visiter la machinerie qui pilote tout. Il est un peu technique et tout. Ouais, moi je vais aller dans la machinerie. Alors, il va tout en haut, mais il veut voir comment ça marche. Il veut détenir les clés de ce phénomène extraordinaire. Cette merveilleuse boîte extraordinaire, c'est éblouissant. Alors, il veut y aller, mais il se casse le nez parce qu'il y a une pancarte en rouge. Accès interdit à toute personne non autorisée. Wow. La visite des lieux n'est pas le but du voyage. Il faut y être invité. Ou si on est le technicien, il faut être formé avant d'entrer. Hein ? Vous le savez, ça. Comprendre les mécanismes, il faut savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Alors le fonctionnement, pour pouvoir jouer son rôle, il faut le connaître. Je pensais à ça, je me dis, ben, en fin de compte, s'il suffisait de visiter une cathédrale pour dire les messes, ça fait apparaître bizarre, mais des fois, on pourrait être tenté de faire un peu ça. Hein. La cathédrale, c'est public, mais devant l'autel, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Alors, j'approche de la fin. Quelques-uns ont choisi d'autres ascenseurs que celui que je présente. Ils sont arrivés en haut de quoi ? Alors, ils ont été au sommet de quoi ? D'un panier de crabes ? Ah, ils ont peut-être assujetti des populations. Ils ont peut-être amassé des fortunes, créé des trucs, des machins extraordinaires. Hein. Ils se sont fait tout seuls à la force de leurs poignets. Bravo. Où ils ont fait faire des pas de géant à l'humanité, jusqu'à sauter sur la Lune. Certains, ils sont souvent dans la Lune d'ailleurs, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais d'être sur la Lune, je crois que ça ne les fait plus en rêver. Sur cette Lune-là, ça ne fait plus rêver. Alors, vous savez, des ambitions peuvent être bonnes, heureusement, il faut avoir des ambitions, mais il faut bien les choisir, en soigner la motivation. Parce que ces personnes que je viens de citer, en réalité, elles ne sont pas montées plus haut qu'une stèle de pierre, où elles y restent. Alors, de marbre ou de fonte, c'est toujours aussi froid. Et puis, ils ont des fois des signatures de pigeons sur l'épaule, vous savez. Quel honneur satisfaisant. Bof, je sais pas. Aucune trace, aucune conséquence. Aucune conséquence. Alors, entre nous, j'espère que quelques-uns d'entre nous ne sont pas quand même attiré par cette finalité. Hein. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de monter jusque là-haut pour adorer le Seigneur, le rencontrer en personne et vivre ce qu'il nous a promis, vivre l'espérance qu'il nous donne dans sa parole. Et vous savez que nous avons de l'aide, puisqu'il y a cet ascenseur à notre disposition. Alors, ce n'est pas nous qui le faisons grimper, mais c'est pour nous qu'il est présent. Nous n'en sommes que les passagers. Nous, les pros, on disait les usagers. Mais je n'aime pas l'idée d'user d'une force mue par Dieu puissant, par un Dieu puissant. On n'use pas de sa grâce, hein. On en bénéficie. On bénéficie de ses richesses, de ses largesses, de sa force, de son assistance, etc. Et alors, une fois sur la terrasse de l'immeuble, à allez, 10, 20, 1000 mètres, on ne sait pas, à X mètres de haut, on voit un autre paysage. On découvre un nouvel horizon voulu que Dieu nous dévoile lui-même. On surplombe cette agitation grouillante qui reste à nos pieds, dont nous nous sommes extirpés, extirpés de la pollution. Elle nous a toussés, hein. Ça polluait notre âme et notre esprit. Ce brouhaha ne nous conditionne plus. Pourquoi ? Il devient inaudible, tellement près de Dieu qu'on n'entend même plus tous les bruits. Hein. Vous êtes déjà monté en haut de la tour Eiffel ? On n'entend pas ce qui se passe en bas. Hein. Ça, c'est un programme, non ? C'est une destination où nous sommes attendus. Nous sommes attendus tout là-haut. Alors, vous avez pris le bon ascenseur, celui de Dieu, qui vous emmène à la vitesse qui vous correspond. Mais n'oubliez pas que lorsqu'il s'arrête à un étage, vous n'êtes pas obligé d'en descendre. Vous avez enregistré le dernier étage. Vous êtes d'accord ? Top level. Oh, je parle bien, je suis fier de moi. Donc, il faut une motivation sérieuse, un besoin ou une invitation, car très souvent, à chaque arrêt, la cabine, elle ouvre ses portes, avec les tentations, avec ceci, avec cela. Pas pour vous, descendiez forcément, mais des fois, c'est pour accueillir un autre passager qui va dans la même direction que nous, spirituellement parlant, bien sûr. Alors, je suis quand même content en ce moment de savoir que vous êtes tous avec moi, on est tous ensemble dans la même cabine. Pas seulement ici, dans ce lieu, mais on a pris le même moyen d'ascension, ensemble, pour aller vers le même but, vers le Seigneur. S'élever, monter, s'approcher de Dieu. Hein ? Et ce n'est pas un rêve inaccessible. On ne va pas dans la lune, on ne va pas sur la lune, c'est secondaire, ça. Nous savons qui est à la manœuvre et qui propulse notre ascension. On le sait, on en a la confirmation chaque jour. On l'a encore entendu ce matin dans vos prières. Et encore un tout petit détail, et je finis là-dessus. Il ne s'agit pas d'arriver le premier. Il y en a déjà un qui est là-haut, qui nous a précédés. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous laisse cette image de l'ascenseur spirituel. Et que, eh ben, que vous puissiez méditer là-dessus, avec la parole, pas avec mes mots, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse.